Bonsoir. Le syndicat national des médecins Ville de Kinshasa décide de radicaliser son mouvement de grève. La semaine dernière, les professeurs de l'Université pédagogique nationale UPEN et ceux de l'Université de Kinshasa UNIKIN ont entamé leur grève. Tous ces corps revendiquent le réajustement de leur salaire au taux budgétaire de 1452 francs congolais à partir de la paix du mois de juillet 2017. Comment analyser cette situation? C'est la question de l'émission et nous en parlons avec Dr. Fabien Nzoko. Il est président de la Commission nationale de contrôle et vérification du Syndicat national des médecins du Congo, SINAMED en sigle. Bonsoir Dr. Fabien Nzoko.
Bonsoir.
Dr. Jean-Baptiste Sonji, spécialiste en santé publique, il est aussi ministre honoraire de la santé publique. Bonsoir Dr. Jean-Baptiste Sonji.
Bonsoir.
Et Polydor Tangeli, l'analyste et expert en matière du travail, il est également secrétaire exécutif du groupe Mossala, groupe d'expertise en intervention psychosociale en faveur des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des jeunes désœuvrés. Bonsoir Polydor Tangeli.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Après les professeurs qui ont entamé leur mouvement de grève, ce sont les médecins de Kinshasa qui ont décidé de radicaliser leur grève. C'était hier mardi, à l'issue de leur réunion extraordinaire tenue à Kinshasa. Explication avec vous, Béric Franklin Luchaka.
Le secrétaire exécutif provincial du syndicat national des médecins, SINAMED, a expliqué ce changement par le fait que le dernier conseil des ministres présidé par le chef de l'État vendredi dernier n'a pas pris en compte les revendications des médecins. Docteur Simon Itelete.
Nous attendions le conseil des ministres qui devait se tenir dans l'espoir qu'on aborderait les volets concernant les revendications des médecins. Mais à ce jour, des informations à notre possession, rien n'a été dit dans ce sens, alors que la situation sociale des médecins ne fait que s'empirer. D'ailleurs, à la fin de l'année, il y a certains médecins qui n'ont pas pu retirer les résultats de leurs enfants aux écoles. Il y en a qui ont perdu les loyers. La femme se trouve dans la maison familiale. Et lui-même, le médecin, se retrouve dans une famille amie. Alors, on ne sait pas comment la rentrée scolaire ils vont préparer. Donc, compte tenu de toutes ces situations-là, les médecins pensent qu'il y a un problème social préoccupant dont le gouvernement est censé donner des solutions.
Pour leur part, les professeurs de l'université de Kinshasa ont décidé de maintenir leur mouvement de grève qu'ils observent depuis le 7 août. Décision prise au cours de l'Assemblée générale tenue mardi 17 août au sein de cette institution universitaire. D'après le comité exécutif de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Pukin, qui avait engagé des négociations avec le gouvernement sur les revendications des professeurs, aucune avancée n'a été enregistrée du côté du gouvernement concernant la requête du personnel scientifique de l'université. Précisons une chose, les médecins et les professeurs réclament l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles qui, selon eux, passent par l'application du taux de change actuel à la paye. Et particulièrement, les médecins réclament aussi l'inscription sur les listes de paye des médecins de Kinshasa qui ne sont pas encore rémunérés et les promotions en grade.
Merci Berry Franklin Luchaka, docteur Fabien Nzoko. Vous êtes président de la Commission nationale de contrôle et vérification du Syndicat national des médecins du Congo, SINAMED en sigle. Quand vous parlez radicalisation, vous voulez dire quoi par là? Pas de service minimum, les médecins ne posent aucun acte, même aux urgences, même en réanimation?
Merci pour la question. Je précise, je suis le président de la Commission nationale de contrôle et vérification du SINAMED, Syndicat national des médecins. Effectivement, quand on parle radicalisation, ça veut dire que nous partons au départ d'un service minimum dans lequel nous avons eu à recevoir uniquement les urgences et à nous occuper des malades hospitalisés. Et au moment de la radicalisation, il y a essentiellement deux formes. Soit que nous ne recevons même plus les urgences, donc nous ne nous occupons que des malades hospitalisés, ou encore nous pouvons polariser les urgences, donc orienter les urgences vers quelques formations médicales par jour, par exemple.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
À ce jour, nous sommes encore en service minimum. La ville-province de Kinshasa, qui est l'une des 26 provinces de la République, a donné son point de vue hier pour une radicalisation de la grève et le Bureau national du Sinamed, qui est encore en train de compiler le point de vue des 25 autres provinces, va se prononcer sans aucun doute avant la fin de la semaine pour décider du moment, de la forme de la radicalisation de la grève au cas où la majorité des médecins de la République décidaient ainsi.
Donc toutes les provinces vont entrer aussi en lice.
Bien sûr que nous sommes un syndicat national, donc nous coordonnons l'attitude ou mieux la décision que chaque province prend.
Comment vous justifiez la radicalisation de votre mouvement de grève?
Je voudrais rappeler à l'opinion que c'est depuis le 24 mai 2017 que le Sinamed a adressé un cahier des charges au gouvernement. Et depuis le 3 août 2017, le chef du gouvernement a reçu officiellement le rapport des travaux de la commission paritaire, j'allais dire, entre le gouvernement et le banc syndical qui se sont tenus à Safari Beach.
Depuis le 3 août.
Depuis le 3 août, le Premier ministre, le chef du gouvernement, a reçu la délégation syndicale et le rapport final de ses travaux. Lors de cette audience que son excellence, monsieur le Premier ministre, a accordée au banc syndical devant le ministre de la Santé, il a dit qu'il allait soumettre la question des revendications des médecins au Conseil des ministres, au prochain Conseil des ministres. Et ce Conseil des ministres a eu lieu le 11 août 2017. Il s'avère qu'à l'issue de ce Conseil des ministres, au compte rendu que nous avons suivi à ce jour, on n'a pas fait mention des revendications du Sinamed. J'allais même déjà dire que nous avions trouvé beaucoup de points communs avec le gouvernement, avec les experts du gouvernement. Le seul point qui est resté suspens, pour lequel nous attendions un arbitrage de son excellence, monsieur le Premier ministre, c'est sur la rémunération. Donc, à ce jour, le Bureau national du Sinamed a écrit au Premier ministre pour dire que nous attendons toujours le compte-rendu du Conseil des ministres. Et en attendant, les assemblées générales qui se sont tenues sont en droit, bien sûr, de pouvoir prendre position et éventuellement radicaliser la grève parce que le service minimum apparemment ne trouve pas écho auprès du gouvernement.
Oui, mais vous en parlez avec beaucoup d'aisance. En radicalisant votre mouvement de grève, est-ce que vous vous mettez à la place des patients dont la situation sanitaire est critique et qui ne peuvent tenir que grâce, n'est-ce pas, au traitement que vous leur administrez?
Je veux d'abord dire que nous sommes des potentiels patients. Et nous sommes, j'allais me dire, des patients effectifs pour le moment parce que si vous êtes père de famille, que vous soyez dans l'incapacité de pouvoir assurer la scolarité de vos enfants, quelque part vous devenez un peu irresponsable. Le Sinamed a fait des concessions avec le gouvernement depuis plus de 7 ans. Et c'est regrettable que 3 mois après qu'on ait déposé un cahier des charges, 14 jours après que le Premier ministre nous ait reçus, que l'on soit dans l'incapacité de poser des gestes envers les médecins. Nous sommes patriotes, nous n'avons pas un autre pays, nous n'avons surtout pas, pour le Sinamed, des ambitions politiques. Nous regrettons que, sur le plan technique, que des experts disent qu'il soit possible de pouvoir améliorer un tant soit peu la situation des médecins et que le gouvernement, dans l'ensemble, ne puisse pas répondre favorablement à cette situation. Donc, nous compatissons à la situation de nos malades. Je le dis, nous-mêmes aussi, parmi les médecins, il y a des malades, mais nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que nous pouvons parce que, on le dit en français, devant l'impossible, nul n'est tenu.
Vos revendications, docteur Nzoko, sont légitimes, mais vous n'êtes pas sans savoir que la situation économique, politique, en fait, la situation générale du pays n'est pas du tout reluisante, n'est-ce pas? Comment vous espérez obtenir gain de cause dans un tel contexte?
Je voudrais d'abord rappeler que nous sommes un syndicat des cadres universitaires et donc nous savons apprécier la situation du pays. Et pour ce faire, il y a peu, on nous disait que le prix du baril était en baisse, que le prix des matières premières était en baisse. Je ne sais pas si le même argument tient encore aujourd'hui parce que, quoi qu'en baisse, on a vu le prix du carburant à la pompe galoper ici chez nous au pays. Par contre, par rapport à la situation générale du pays, je voudrais aussi fustiger ici la situation selon laquelle certains sont payés au taux budgétaire à partir de juillet 2017, et pour d'autres, on considère que c'est...
Quand vous dites certains, vous faites allusion à qui?
Mais nous savons tous dans ce pays qu'il y a certaines catégories professionnelles, même certaines catégories politiques, comme les députés nationaux, qu'on nous dise à quel taux on les a payés au mois de juillet. Mais...
Même les députés se plaignent, même les députés sont en train, n'est-ce pas, de se plaindre tous les jours.
Mais on peut se plaindre pour distraire aussi la population, parce que tous nous savons ce qui se passe. Qu'on nous dise à ce jour, dans ce pays, combien touche les ministres au niveau de notre pays, combien touchent les députés, combien touchent les médecins, combien touchent les huissiers, combien touchent l'enseignant. C'est le débat qu'on ne veut pas justement mener parce que on sait que le bas va blesser.
Docteur Nzoko, vous n'allez pas dire que même les infirmiers sont entrés en lice?
Mais ils sont déjà en grève, si vous ne le savez pas.
Donc les malades sont abandonnés à leur propre sort.
Pour le moment, ils sont
absolument
encore
abandonnés.
Pour le moment, ils sont encore pris en charge par le service minimum. Dans les jours qui suivent, je ne saurais pas dire parce que les médecins sont en train de se prononcer.
Merci, docteur Jean-Baptiste Songy. Vous êtes spécialiste en santé publique. Vous êtes aussi ministre honoraire de la santé publique. Comment vous réagissez à cette décision des médecins de Kinshasa de pouvoir radicaliser, n'est-ce pas, leur mouvement de grève?
Je suis chirurgien aussi. Donc, je connais la situation dans laquelle les médecins vivent. Vous savez, ce problème, il est général et même récurrent. Quand nous étions élèves au collège, au Botossi, collège Albert Ier, les assistants congolais qui étaient à l'université Lovanium, leur salaire était le même que celui du député national. C'est-à-dire que les assistants à l'université Lovanium, donc les professeurs Kanza de tout ce qui était à Lovanium, leur salaire était équivalent au député de la première législature. Cela veut dire que un médecin, comme les professeurs d'université d'ailleurs, c'est parmi les gens qui devraient être correctement payés plus que d'autres. Mais aujourd'hui, chez nous, en fait, la médecine, elle est complètement, pas seulement la médecine, même le corps enseignant, est complètement abandonnée à elle-même.
Traité en parent pauvre.
C'est tout à fait un parent pauvre. Et d'ailleurs, dans des pays normaux, chaque année, les salaires sont indexés au taux de l'inflation. Mais ici, chez nous, il ne s'agit pas simplement de l'inflation. C'est la dépréciation monétaire. Donc, normalement, c'est automatiquement que tout cela devait se faire. Mais le problème, c'est que, comme vous le dites si bien, ça s'inscrit dans un contexte politique global où la persistance de la crise politique a eu un impact sérieux sur le plan économique et cette économie, s'amenuisant, a un impact sur le plan social. Donc, c'est pour cela que vous avez des grèves partout, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui se satisfait. Et l'État, je ne sais pas comment il va faire, parce que la production diminue du fait que la crise politique persiste. Donc, beaucoup d'hommes d'affaires quittent le pays. Beaucoup n'investissent plus. Donc, les recettes de l'État diminuent. Et aujourd'hui, l'État, pour pouvoir payer, est obligé de faire appel à la planche à billets. Et en faisant la planche à billets, il dévalorise la monnaie. Au fur et à mesure du valorisation de la monnaie, il est obligé de réajuster les différents salaires. On est dans un cercle vicieux dont je ne sais pas très bien comment on pourrait en sortir. Et ça rappelle l'époque de Mobutu, la fin du régime de Mobutu, au moment où lui aussi était contesté par la population. Et il a tenté de résister. Vous savez, nous avions eu des billets de millions de zaïres. On est exactement dans la même situation. Et il est vraiment...
L'histoire se répète.
C'est ça. Alors, quand les gens, évidemment, ne savent pas lire l'histoire, ils répètent les mêmes erreurs qui conduisent les mêmes effets. Mais pour lire l'histoire, il faut être correctement alphabétisé.
Et s'ils ont raison sur le fond, en radicalisant leur grève, ne sont-ils pas, les médecins, ne sont-ils pas, n'est-ce pas, en train de sacrifier ces personnes qui, en plus d'être affectées parce que malades, ont payé beaucoup d'argent à ces différents hôpitaux qui aujourd'hui les abandonnent, ne s'occupent pas d'elles.
Mais je ne sais pas s'ils paient d'abord beaucoup d'argent, parce que vous savez, dans la pauvreté...
Oui, mais c'est beaucoup d'argent qu'on paye dans nos hôpitaux, même les hôpitaux publics. Hein.
Bon, non, vous savez...
Quand vous posez la question aux familles des personnes malades, ils vont vous relater tout ce qu'ils payent comme
matin, soir. Ils vous disent qu'ils payent beaucoup, mais quand vous regardez... Vous savez, il n'existe pas de soins de qualité qui ait un coût faible. Allez dans les. Vous savez, j'ai été assistant à Saint-Lucel. Vous savez que, à l'époque où moi j'étais, il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années même, l'hôtellerie seulement, donc le fait de loger, le fait qu'on vous nourrisse, eh bien, c'était 5000 francs belges par jour, par malade. 5000 francs belges. Donc c'est l'équivalent. Donc vous voyez que, il n'existe pas des soins médicaux de qualité qui ne coûtent pas. Et les médecins...
Mais là où le pouvoir d'achat de la population est faible.
Oui, mais pourquoi un pays riche comme le nôtre ici doit-il avoir un pouvoir d'achat faible? Quelle est la raison pour laquelle les pays pauvres, les pays comme le Rwanda, qui est pauvre, le pouvoir d'achat du Rwandais est supérieur à notre. Et en face ici, le pouvoir d'achat de Brazzaville est 11 fois supérieur au nôtre. Comment expliquer cela dans un pays qui est potentiellement riche et qui ne soit pas capable justement de payer correctement ses médecins, alors qu'avant que ce pouvoir n'arrive, notre pays avait le niveau de celui du Canada, le niveau de celui d'Afrique du Sud, le niveau de celui de la Corée du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que notre pays, que tout le monde envie, ne fait que s'enfoncer dans la pauvreté? C'est une question fondamentale.
Docteur Sonji, vous êtes ministre honoraire de la Santé publique.
Oui.
Face aux difficultés que connaît le gouvernement actuellement, qu'est-ce qu'il aurait fait, qu'est-ce que le gouvernement aurait fait, n'est-ce pas, pour éviter cette radicalisation de la grève des médecins?
La première des choses, je pense que la radicalisation, d'abord les médecins, c'est normal, quand tout le monde, nous travaillons tous pour vivre, hein, avec un salaire. Donc quand à un moment donné, vous voyez que votre salaire avait un niveau donné, et puis à un moment donné, il n'a plus ce niveau-là, c'est tout à fait légitime que les gens revendiquent, et c'est normal.
Qu'est-ce que le gouvernement ferait, n'est-ce pas, pour éviter cette radicalisation?
Mais le gouvernement,
vous qui êtes ancien
d'abord,
ministre.
Mais répondre aux exigences des médecins qui sont fondées. Qui sont tout à fait fondés. Mais ce qui est vrai, c'est que le gouvernement va se retrouver en face de plusieurs exigences légitimes des enseignants, de tout le monde, même de la fonction publique, parce que la cause fondamentale, son obstination à ne pas décanter la situation politique, c'est ça qui est à la base, qui fait que le pays ne produisant plus, alors on se retrouve dans un cercle vicieux, et comme à l'époque de Mobutu. Donc, le problème, la cause fondamentale, il se trouve au niveau politique, parce que c'est la politique qui organise l'économie, c'est la politique qui organise tout, qui organise les salaires des gens. Donc aujourd'hui, le blocage politique conduit le pays dans une impasse dangereuse. Et aujourd'hui, ce sont les médecins qui font la grève. Mais vous savez, quand nous étions avec Mobutu, quand il faisait la même chose, on a vu Laurent Désiré Kabila sortir que personne n'attendait. Et notre pays aujourd'hui est dans une situation où aujourd'hui il y a grève par-ci, il y a grève par-là. Le gouvernement, je ne sais pas s'il sera en mesure de répondre correctement aux exigences de ces gens en connaissant l'impasse économique dans laquelle...
Docteur, un réajustement par palier, par exemple, au lieu de payer au taux budgétaire de 1452 francs congolais, le gouvernement ne peut pas proposer aux médecins un premier palier au taux de 1250 francs congolais comme...
Mais le budget...
Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher?
Le budget, c'est le gouvernement qui l'a fait. Le budget, quand le gouvernement fait son budget, il sait que dans ce budget, il y a le salaire des médecins, il y a les salaires des enseignants, il y a les salaires... Parce que c'est ça le budget. Donc, il n'est pas normal que, ayant fait ce budget sur ce base-là, qu'il se retrouve en difficulté pour honorer ce que lui-même a fait, puisque même la dépréciation monétaire ici, c'est l'État lui-même qui reconnaît que le franc congolais, le taux est de à 1 dollar... pour 140 ou quelque chose comme ça là. Et il a fait ce budget là. Donc il a fait ce budget en toute connaissance de cause. Il sait que dans mon budget, il y a une enveloppe qui est destinée au salaire des médecins. Il y a une enveloppe destinée aux professeurs, aux enseignants. Il y a une pour les fonctionnaires publics. Donc aujourd'hui, il n'est pas normal que le gouvernement ne soit pas capable d'honorer ses propres engagements.
Le budget, il faut aussi les réaliser, hein.
Oui, mais ou bien le gouvernement est tout à fait incompétent, il n'est pas à sa place. Donc il fait des budgets en l'air, alors sa place n'est pas la tête de l'État.
Merci.
Il doit, à ce moment-là, être remplacé par d'autres.
Merci, Polydore Tanguelli, analyste et expert en matière du travail. Vous êtes également secrétaire exécutif du groupe Mossala, groupe d'expertise en intervention psychosociale en faveur des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des jeunes désœuvrés. Les médecins, les professeurs sont en grève. Les médecins sont allés même jusqu'à radicaliser, n'est-ce pas, leur grève. Comment vous analysez cette situation?
L'analyse que nous faisons de la situation va rejoindre certainement ce que mes prédécesseurs ont dit. On est en face d'une situation de récurrence et il suffit de jeter un regard rétrospectif sur la problématique Mboudi. Vous aurez tiré plusieurs leçons de ce qui arrive. Nous sommes en face d'une situation d'un manque de coordination gouvernementale où, au moment où on est en train d'élaborer le budget, les chiffres sont autres et les déclarations dans les salons politiques sont autres. Ce qui fait que l'application pose problème et les bénéficiaires en font une récupération. Mais malheureusement, on est en face d'une récupération qui ne tient pas compte du décor. Qui ne tient pas compte du décor, puisqu'au fait, lorsque vous déclenchez un mouvement de grève, vous devez lui donner la possibilité de réussir à tout prix. Pour que les actions à venir puissent avoir leur nette valeur. Cependant, je dois souligner ici qu'il s'observe dans les chefs des acteurs syndicalistes qu'il n'y a pas eu, à juste titre, une belle appréciation du décor. Pourquoi ? Il s'agit d'un dialogue. Et lorsque les valeurs de l'interlocuteur ne sont pas les vôtres, il arrive que le dialogue soit finalement le dialogue de sourds. Et c'est pratiquement ce qu'a décrit le syndicaliste qui est notre co-débatteur, du fait que on accepte les recommandations pour les accepter, mais la mise en œuvre pose problème.
Et donc vous pensez que dans un contexte comme celui-ci, où la situation générale du pays n'est pas reluisante, quelle aurait été la meilleure façon de faire cette revendication?
Je crois, à mon humble avis, la situation telle qu'elle a décrit le docteur Songi est totalement dégradante. Et que par sursaut de patriotisme, comme l'a dit
Docteur Nzoko,
il en faut un certain réalisme. Puisqu'au fait, vous avez même mis en évidence la mise en danger de la vie des malades. On pouvait aussi parler de la mise en danger de l'avenir académique des étudiants.
Et le réalisme passerait par quoi ?
Le réalisme passerait par un mode adapté, un mode de revendication adapté à la circonstance, plutôt qu'à une revendication totale. Et cela reviendrait à... Puisque la situation socio-économique est dégradante. Nous le sentons. Au jour d'aujourd'hui, si les revendications doivent être poussées plus sur des solutions qui ne peuvent être offertes à ces moments, on demande l'impossible. Je sollicite, à mon humble avis, pour des raisons d'harmonie sociale en tant que psychologue, que les revendications soient orientées sur le faisable. Sinon, on construit un monde de rêves plutôt qu'un monde de réalité, et la dégradation, nous en serons tous victimes.
Et qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui?
Ce qui est faisable, c'est la solution au réajustement, non, pas à la correction de l'adresse salariale, par exemple. Il y a des nouvelles unités, vous voyez, qui peuvent être mécanisées. Ça, c'est faisable. Il y a des gens qui ont perdu leurs adresses salariales abusivement. Ça, c'est... On peut trouver une solution. C'est du faisable. Et on peut le résoudre en un clin d'œil. Donc, à mon humble avis, la solution passe par un compromis réaliste et réalisable dans les contextes sociopolitiques qui est le nôtre. Je m'inscris en faux contre la radicalisation de médecins, et encore, nous sommes en période de délibération, en période de session, en milieu universitaire, puisque si les patients ne pourront pas revendiquer leur cause, mais il y a une bombe à retardement qui est la communauté estudiantine, qui est une communauté qui, lorsqu'elle s'exprime...
Les patients, les proches des patients comme les étudiants ont la possibilité de porter plainte contre les médecins et contre les professeurs.
Je vois plus le bénéficiaire direct. Hein? Je vois plus le bénéficiaire direct. Donc, je, après avoir analysé de manière holistique, je propose ici des pistes de solutions réalistes et réalisables, même si c'est à hauteur de 20%, 30%, mais plutôt qu'on puisse...
Y aller par palier.
Y aller aussi par thématique. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des thématiques qui peuvent être altérées pour des raisons de contexte, mais il y a des thématiques qui sont typiquement urgentes pour des raisons de bien-être de ces gens qui rendent service à l'État.
Merci, docteur Nzoko. Il y a une question à laquelle vous allez répondre. Elle vient de Bukavu, Sud Kivu.
Les soucis majeurs des médecins seraient tout d'abord la santé des patients et non le contraire. Je pense pour ma part que les médecins devraient plutôt privilégier les vies des citoyens congolais en restant dans les fonctions tout en cherchant d'autres voies et moyens pour revendiquer la majoration des salaires qui est un droit reconnu par la Constitution congolaise.
Docteur Nzoko.
Merci beaucoup. Je vais d'abord commencer par une précision. Les revendications des médecins ne portent pas que sur la rémunération. Nous avons deux types de revendications. Nous avons des préoccupations urgentes qui concernent primo la rémunération, secondo la mécanisation de 3865 médecins, tertio la réintégration de plus de 300 médecins qui sont bloqués sans raison valable. Donc des médecins qui travaillaient, des pères de famille qui, depuis 12 mois, je cite ici l'ex-province du Katanga, l'ex-province orientale, et l'ex-province de l'Équateur, et l'ex-province, la province du Congo central, où on a bloqué des médecins qui travaillaient normalement, sans raison valable, déclarés fictifs ou décédés, et donc, on les a bloqués, des listings des pays.
Et donc, ni le réajustement des salaires, ni la mécanisation des nouvelles unités, ni la réintégration des médecins, aucune de ces revendications n'a été prise en compte par le gouvernement jusque-là.
Je disais tout à l'heure que nous avions trouvé avec les experts du gouvernement beaucoup de points de convergence.
Quels sont ces points?
Entre autres, le gouvernement a pris l'engagement à travers ses experts de pouvoir mécaniser au mois d'octobre 350 médecins, que l'on puisse débloquer les médecins bloqués abusivement, que dans les deux semaines qui suivaient la signature du protocole d'accord, que l'on puisse commencer
les traitements. Dans des mois.
Oui, oui, les traitements du dossier en ce qui concerne la nomination à la nouvelle nomenclature. Mais ce qui nous choque, c'est quoi? C'est que depuis le 3 août, où son excellence, monsieur le Premier ministre, a reçu la délégation syndicale, en disant que sur le seul point de divergence, donc en rapport avec la rémunération, la correction de l'injustice sur les termes de référence, le gouvernement reste muet à ce jour. C'est ça que nous ne pouvons pas comprendre. Et à ce jour, nous n'avons pas encore signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Donc, tel que M. Polidor l'a dit, nous avons fait suffisamment de concessions, nous avons trouvé des points de convergence, mais il y a eu un manque de volonté politique à pouvoir signer le protocole d'accord pour que les médecins, justement, restent dans les hôpitaux. Alors, pour revenir à la question, je suis d'accord avec l'intervenant, en fait avec l'auditeur qui nous rappelle le serment d'Hippocrate, c'est que je n'ai pas oublié, mais je voudrais aussi dire à l'auditeur que le médecin n'a pas que le serment, mais il a aussi un testament qu'il doit honorer. Pouvez-vous accepter de vous présenter devant un médecin qui ne vous inspire pas confiance ou qui a l'esprit ailleurs parce que dans son foyer ça ne marche pas, ses enfants sont chassés de l'école, il n'a pas mangé, il est en train de somnoler devant vous parce qu'il n'a pas dormi, en train de penser toute la nuit sur le devenir de sa famille, vous n'êtes pas à l'aise.
Et comment vous réagissez au propos de Polidor Tangeli qui estime que vos revendications ne tiennent pas compte du décor et qu'il faut un mode de revendication adapté à la circonstance?
Je viens de vous démontrer que nous avons été plus que réalistes parce que avec les experts du gouvernement, je viens de le dire, nous avons trouvé un compromis pour qu'on mécanise 350 médecins. Donc ça c'est déjà une revendication qui déjà a trouvé une solution. En ce qui concerne l'application du barème, le gouvernement dit je voudrais réajuster à 30%. Le CINAMED dit ça fait 7 ans que nous avons été victimes, nous voulons que vous puissiez réajuster d'abord à 50% au mois d'août et au mois de septembre et à 100% au mois d'octobre. Bon, nous sommes devant une divergence. Nous nous référons au chef du gouvernement. Le chef du gouvernement dit, je m'en réfère au conseil des ministres. Et après le conseil des ministres, c'est le silence radio. Vous voulez que les médecins croient quoi à l'instant? Je vous informe que le bureau national du CINAMED vient d'écrire à son excellence, monsieur le Premier ministre, pour lui demander de lui communiquer la position du conseil des ministres, le temps que les médecins puissent se prononcer, parce que je précise ici que la décision de radicalisation concerne pour l'instant que la ville province de Kinshasa. Nous comprenons cette position.
Il y a plus de 10 millions d'habitants dans cette ville et beaucoup de malades.
Oui, mais la décision.
Ils sont même hospitalisés.
Mais la décision n'est pas encore totalement effective. Donc le service minimum continue le temps que le bureau national procède à la compilation et à communiquer au chef du gouvernement la décision finale des médecins au regard de la position qui reviendra du banc gouvernemental.
Docteur Sonji, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Bukavu, une fois de plus, au sud de Kivu.
Robert Baomi de Bukavu, au sud Kivu. Les médecins et les professeurs de l'université de Kinshasa, UNIKIN, et de l'université pédagogique nationale, IPEN, ont pleinement raison respectivement de radicaliser et d'entamer leur mouvement de grève. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement qui les payait au taux de 930 francs congolais le dollar ne veut pas accéder aujourd'hui à leurs revendications en les payant au taux de 1450 francs le dollar américain, qui est d'ailleurs le taux budgétaire prévu bien avant. En réajustant les salaires à ces taux budgétaires, que perdrait-il alors que c'est le taux prévu pour faire face aux éventualités? Décidément, le gouvernement congolais est de mauvaise foi pour faire souffrir les agents et les fonctionnaires de l'État.
Docteur Jean-Baptiste Sonji.
Oui, c'est pas une question. Il abonde dans le même sens que moi. Hein. Il dit effectivement que quand vous faites un budget, vous êtes compétent ou vous ne l'êtes pas. Quand vous êtes budget, vous devez. Le budget, c'est les possibilités de recettes que vous avez et les dépenses prévues pour ces recettes-là. Donc, on suppose que lorsqu'il met ce taux-là, comme je venais de le dire ici, il a tenu compte des recettes et des dépenses qu'il doit pouvoir faire. Donc, il n'est pas normal qu'après avoir élaboré un budget qui a été voté par le Parlement, le gouvernement se retrouve en difficulté pour mettre en application ce même budget qui est le budget ordinaire. Ce n'est même pas un budget d'investissement, c'est un budget le plus ordinaire. S'il y a quelque chose d'anormal, ou bien le gouvernement, effectivement, il trompe le peuple congolais en donnant de faux budgets, en ce moment-là, il est incompétent, sa place n'est pas à la tête de l'État. Alors qu'on parle, il faut tenir compte de l'environnement. Mais vous savez, un environnement peut être mauvais, néfaste. On ne peut pas dire que parce que l'environnement est mauvais, nous nous adaptons à un environnement qui est mauvais. Comme je venais de le dire ici, dans les années 64, un médecin avait le salaire équivalent de celui du député à l'époque de Kasavubu. Ça veut dire qu'on se rend compte que cette situation a complètement changé. Donc aujourd'hui, cette situation est mauvaise. Donc, tout Congolais sérieux doit absolument dénoncer l'environnement dans lequel nous vivons, dont les conséquences se caractérisent par l'appauvrissement généralisé. Donc, ce n'est pas normal. Le peuple congolais ne peut pas trouver normal que être pauvre, c'est normal. Dans un pays où il y a, et puis on a les gens qui s'amusent avec l'argent ici. Il y a un groupe et des groupes d'agents qui s'amusent avec de l'argent. Et puis on prend, il y a beaucoup de fuites de capitaux. Il y a des gens qui sont, il y a des milliards, des millions de Congolais qui sont dans le pays. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est malsain qui se passe au sommet de l'État où certaines catégories payent leur incurie, l'incompétence, pendant qu'une petite minorité s'amuse avec les ressources du pays. Et cet environnement, on ne peut pas s'en accommoder.
Et à l'époque où vous étiez ministre de la Santé publique, Dr Sonji, comment vous parveniez à gérer les conséquences qui découlent souvent de ce genre de grèves?
Non, nous, d'abord, à mon époque, il n'y a pas eu de grève. Il n'y a pas eu de grève à la part des grèves locales, comme à l'hôpital Ngalema, où on contestait la direction, comme à l'hôpital aussi Kinoise.
À l'époque de Mouzé, le roi des Kabila, il n'y a pas eu de grève dans les hôpitaux.
Il n'y a pas eu de lien. Il n'y a pas eu de grève.
Vous les avez bien gérés.
Non, ce n'est pas moi qui ai géré. C'est dit que c'est l'environnement. Comme on dit justement, c'est l'environnement politique global. D'abord, dès qu'on est arrivé au pouvoir, on a stabilisé justement la dégringolade du Zaïre qui ne faisait que descendre. Dès qu'on est arrivé, les gens ont eu confiance, on a stabilisé. Ça veut dire que le salaire de tout le monde, que ce soit je me rappelle d'une petite fille, un jour, je suis allé dans une famille. Elle me dit, écoutez maman, moi j'aime bien monsieur Laurent Désiré Kabila. Elle m'a dit, tiens, pourquoi? Il dit, mais depuis qu'il est là, maman me fait des omelettes. Alors qu'avant, elle ne me faisait pas des omelettes. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une certaine confiance, il y a une certaine stabilisation de la monnaie, donc la dégringolade baissant, les gens n'avaient aucune raison de faire grève, c'est-à-dire qu'on offrait des perspectives. Parce que les gens, que ce soit les médecins, les professeurs ou tous les autres, ne sont pas des fous. Ils ne demandent pas qu'aujourd'hui, qu'ils aient un salaire de 5 000 $. Mais au moins qu'on offre non seulement à eux et à tout le peuple congolais des perspectives différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à un niveau A, mais que compte tenu de ce qui est fait dans le pays, dans 5 ans, notre niveau atteindra un niveau supérieur. Aujourd'hui, cette perspective n'existe pas. La perspective est plutôt dans le sens inverse. Donc c'est pour cela que moi, je ne suis pas de ceux qui s'accommodent de l'environnement politique. Au contraire, cet environnement, il est à la base de tout, et que si aujourd'hui les médecins font grève, c'est parce que l'environnement politique justement ne fait rien pour absolument rejoindre les Congolais plus heureux qu'ils ne le sont.
Polydor Tanguedi, une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient des Mandaka.
C'est Élie Monet dit depuis la ville convergente de Mbandaka. À mon humble avis, c'est juste l'accomplissement de la stratégie de l'AMP à pouvoir pourrir toutes les couches, notamment sécuritaires, médicales, éducationnelles et j'en passe, afin de se maintenir au pouvoir. Je demande ainsi aux médecins et enseignants d'essayer les sessions en acceptant que le taux qu'on les paye pourvu qu'on organise d'abord les élections d'ici décembre 2017 et le reste on verra après car ils ne sont pas les seuls dans cette situation. C'est plutôt l'ensemble des fonctionnaires congolais.
Comment vous réagissez à cette proposition?
Ça rejoint pratiquement ce que j'avais dit et que, qui consistait à dire que lorsqu'on veut faire une intervention, il faut tenir compte des valeurs de l'interlocuteur. Les revendications et les propos de Dr Jean-Baptiste Songy sont fondés. J'y adhère. Mais cependant, ils sont posés à face d'un interlocuteur qui n'a pas les valeurs adéquates par rapport à cette réalité. Et je crois le point de vue de notre ami de Mbandaka rejoint ce que j'avais dit, qu'il faut une approche réaliste pour ne pas aboutir à une situation explosive qui nous fera perdre même le sens du patriotisme, le sens du nationalisme pour notre cher Congo. Je dois ici rappeler que au même moment où nous parlons de médecins, nous parlons de professeurs, il y a des militaires, il y a des fonctionnaires de l'administration dans la générale. Vous allez au niveau de l'entreprise publique, c'est pire. Vous comprenez? Donc, à mon humble avis, pour assurer une certaine paix sociale, les revendications syndicales doivent tenir compte de l'environnement. C'est vrai qu'on peut se moquer de l'environnement aujourd'hui, mais je crois l'influence du milieu est indéniable dans la prise des décisions, dans l'orientation qu'on doit faire pour l'avenir.
Est-ce que ce ne sont pas les revendications qui font évoluer une situation, en fait, une société?
Au fait, je ne prône pas ici une stagnation. Je prône une accommodation attentive. Vous comprenez? Une accommodation attentive pour des raisons de préservation de la paix sociale.
Vous avez suivi le docteur Songy qui estime qu'il y a des gens qui jouent avec de l'argent dans ces pays. Est-ce que le fait que le gouvernement ne répond pas aux revendications des médecins, des professeurs, est-ce qu'on peut lier ça à quoi? Au fait qu'il est incapable parce qu'il n'a pas assez de moyens? Ou c'est la manifestation d'un manque de bonne foi?
Tout compte fait, il est établi qu'il y a l'absence d'une volonté politique de résoudre le problème, comme l'a dit le docteur. Et lorsqu'on est en face d'une absence de volonté, il faut un ajustement conséquent. Il est regrettable ici qu'on évoque la situation égalitaire du député de 1964, du médecin et de l'assistant. Faut-il encore souligner ici qu'il y a une évolution disproportionnelle en quantité et en qualité? Aujourd'hui, on a un nombre exorbitant de médecins. Et s'il faut trouver une solution au plan quantitatif, c'est une explosion en termes de quoi. Donc, j'adhère pratiquement à ces cas.
Mais les potentialités sont telles qu'on peut arriver, n'est-ce pas, à solutionner le problème.
Faut-il encore les convertir en richesse, monsieur Malé?
Pourquoi on est incapable, n'est-ce pas, de convertir ces potentialités
en richesse? On n'a pas la volonté politique. Et voilà. Il faut faire avec ces réalités. Et notre ami a souligné quelque chose d'important, qu'on évite de jouer les jeux de l'interlocuteur. Sinon, on va se présenter devant une situation qui embrase.
Jouer les jeux de l'interlocuteur, c'est-à-dire en revendiquant, l'interlocuteur peut exploiter ça.
Et comment? Exactement, comme il a dit, est-ce que c'est pas les jeux de l'AMP de rendre la situation chaotique pour avoir l'argument afin que les élections puissent prolonger de plus en plus. Puisque c'est une problématique.
Un gouvernement qui comploterait comme contre lui-même. Parce que c'est une situation qui peut les déstabiliser.
Bon, faut-il encore savoir s'il y a volonté politique de changer les choses?
Et que faut-il pour mettre fin à toutes ces grèves? C'est quoi aujourd'hui la solution adéquate et réaliste aujourd'hui?
La solution adéquate et réaliste est que les différents corps professoraux doivent revenir vers eux-mêmes et tenir compte de la réalité du moment. Tenir compte de la réalité du moment, lever des options qui vont promouvoir la paix sociale, puisque le décor n'est pas propice. Ça, c'est du côté du banc syndical.
Voilà.
Et je salue le fait qu'ils ont proposé des solutions réalisables. Et s'il y a un compromis, je salue ces compromis. De la part du gouvernement, nous lançons un appel pour une réelle volonté politique de ne pas poser les jalons d'une explosion dans les jours à venir. Donc voilà en quoi... Donc si ces deux ingrédients sont réunis, je crois qu'on peut avoir un avenir pacifique pour les 12 mois, pour les 2 ans, pour les jours à venir.
Docteur Nzoko, c'est quoi la solution aujourd'hui pour que vous puissiez mettre fin à votre grève?
Bon, je l'ai dit, le CINAMED n'a jamais demandé ni le soleil, ni la lune, encore moins les étoiles. Le CINAMED est réaliste. Je l'ai dit, le CINAMED reste un syndicat apolitique, un syndicat des cadres universitaires, un syndicat patriote. De toutes les revendications posées, nous avons trouvé des compromis, mais à ce jour, nous attendons du gouvernement un arbitrage par rapport à la question des rémunérations. Les taux budgétaires, c'est pas nous qui l'avons inventé. Nous demandons simplement une application, mais que l'on puisse appliquer les termes de référence.
Et donc, vous êtes d'accord sur les paliers, mais c'est les niveaux des paliers qui semblent pas vous
mettre d'accord. C'est simplement le niveau des paliers, mais nous constatons seulement que du côté du gouvernement, il y a un manque de volonté politique, parce que même ce que ses propres experts ont proposé, ils ne commencent même pas à appliquer. Donc, ça prouve que la volonté n'est pas là. Même si le gouvernement semble disposé à signer, il n'a même pas encore proposé le protocole d'accord pour que nous puissions le signer. Pour le CINAMED, si nous signons le protocole d'accord, si le gouvernement s'engage de manière responsable à pouvoir exécuter ces résolutions-là, même de manière progressive, le CINAMED est prêt à reprendre normalement le service. Mais,
et en conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
En conclusion, je l'ai dit, le CINAMED attend beaucoup plus du gouvernement car ça fait 7 ans qu'il a fait des concessions. Il y a beaucoup de situations auxquelles le CINAMED a renoncé. Déjà même la paye du mois de juillet, le CINAMED a fait une concession pour ne pas revendiquer l'application du taux, même s'il pouvait déjà commencer par le mois de juillet. Mais il attend beaucoup plus du banc gouvernemental parce que le CINAMED reste un syndicat patriote. Il attend un signal fort du gouvernement pour reprendre normalement les services.
Docteur Jean Baptiste Sonji, la solution idoine est réaliste aujourd'hui. Ça sera sous votre conclusion parce que nous sommes à la fin.
D'abord, le réalisme, c'est qu'il n'y aura pas, à mon avis, à la fin de cette année, il n'y aura pas des élections parce que le pouvoir en place n'a aucunement l'intention d'abandonner le pouvoir. Ça, c'est un fait réel. Deux, lorsqu'un gouvernement...
Pour mettre fin à cette situation, à toutes ces grèves.
Ah, les grèves, ça, c'est le gouvernement qui doit régler ces problèmes. Mais ça, c'est au gouvernement parce que, je dis ce que j'allais dire. Vous savez, la présidente du Brésil a été relevé de ses fonctions pour avoir trompé sur base budgétaire. Ça veut dire que si aujourd'hui le gouvernement congolais n'est pas capable d'appliquer son budget, c'est qu'il a menti. Il a fait un faux budget et là, il doit démissionner. Au Brésil, le président, madame la brésilienne, là, elle n'a pas volé l'argent, mais simplement, elle a trompé le peuple sur le plan du budget. Et que si aujourd'hui le gouvernement n'est pas capable de mettre en application son propre budget, c'est-à-dire qu'il a menti, il a trompé le peuple, sa place n'est pas à la tête de l'État.
Paul Dotangeli, votre conclusion.
Au fait, si il s'avère qu'il y a des difficultés d'application de toutes ces revendications, j'invite les gouvernements à passer aux aveux, à dire tout simplement qu'il est difficile d'appliquer.
Pour qu'il soit sanctionné.
Tant mieux. Pour que ça soit tant mieux. Faut-il encore que, s'il faut appliquer les différentes revendications, je propose ici qu'on puisse déclencher des procédures d'urgence en matière de mécanisation, en matière de réajustement des salaires, puisque nous lisons une certaine lourdeur dans la coordination des actions gouvernementales. Merci. Ainsi de suite.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique. Merci à Alain Hirung, Berry Franklin Luchaka, sous la supervision de Pelé Luchaka, Pelé Kipela Mondo. À la présentation Guy Maté. Merci et bon suivi de programme sur Radio Capi.